Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, Peter Nečas déclare que ce n'est pas à Miloš Zeman de décider de l'organisation d'élections anticipées. La Cour constitutionnelle perd un nouveau juge et pourrait se retrouver en sous-effectif. Et enfin, patinage artistique, Mikhail Brezhina, médaillé de bronze au championnat d'Europe. Le gouvernement est responsable devant la Chambre des députés et pas le président de la République. La coalition restera en place tant qu'elle aura le soutien de la majorité à la Chambre basse et sera en mesure d'appliquer son programme. C'est en somme le message que le Premier ministre Petr Nečas a fait passer dimanche en réaction à l'élection de Miloš Zeman, président de la République. Celui-ci a déclaré qu'il souhaite que des élections législatives anticipées soient organisées pour remplacer le gouvernement actuel très impopulaire. Le fameux artiste graphique tchèque Oldřich Kulánek est décédé à l'âge de 72 ans ce lundi matin. Il est l'auteur des images des billets de banque tchèques et de très nombreux timbres. Originaire de Prague, Oldřich Kulánek, avait été arrêté et emprisonné par la police secrète tchécoslovaque qui lui reprochait des dessins diffamatoires à l'égard de dirigeants communistes. Relâché après quelques semaines, il est resté surveillé très longtemps et n'a pu publier ses travaux qu'après la chute du régime en novembre 1989. Le mandat de 10 ans du juge Jiří Mucha à la Cour constitutionnelle a pris fin ce lundi. Le tribunal se retrouve donc désormais avec 12 magistrats, le nombre minimal requis pour qu'il puisse fonctionner. Il y en a 15 habituellement. 6 juges de la Cour constitutionnelle tchèque, laquelle siège à Brno, doivent également quitter leurs fonctions dans le courant de l'année, ce qui ne manque pas d'inquiéter en ce qui concerne le fonctionnement de l'institution. Le président nouvellement élu, Miloš Zeman, a déclaré qu'il espérait trouver et soumettre des candidats à l'approbation du Sénat quelques mois seulement après sa prise de fonction en mars prochain. Depuis plusieurs mois, la municipalité de Prague n'a pas payé ses factures à plusieurs fournisseurs opérant pour la construction du tunnel Blanka, une construction réputée pour les affaires de corruption et de gaspillage d'argent qui l'entoure. Jusqu'à maintenant, la ville doit plus d'un milliard de couronnes, soit environ 40 millions d'euros, pour les travaux effectués. Les opérations futures pourraient être évaluées autour de 2,5 milliards de couronnes, soit 100 millions d'euros. Le maire Bohuslav Sobotka du parti ODS se défend en affirmant que la ville doit régler des problèmes apparus sous la magistrature précédente. Miloš Zeman, vous n'êtes pas et ne serez pas mon président. C'est le message envoyé par 10 personnalités, artistes ou anciens proches de Václav Havel, au nouveau chef de l'État élu depuis ce samedi. Supporter de son adversaire conservateur Karel Schwarzenberg, il considère en effet illégitime un scrutin remporté selon eux par le mensonge. La réalisatrice de documentaires et écrivaine Monica Lefay affirme même qu'il s'agit d'une victoire à la Pyrrhus obtenue par les mensonges et les moyens de la police secrète tchécoslovaque STB. Le président nouvellement élu, Miloš Zeman, s'est quant à lui retiré dimanche dans sa maison en Vysočina, région située au centre de la République tchèque. Selon son entourage, il compte récupérer de la campagne présidentielle et du stress qui en découle jusqu'à jeudi et son retour à Prague. La police, quant à elle, recherche toujours le ou les auteurs d'un graffiti représentant une étoile rouge et réalisé dans la nuit de dimanche près de la demeure du prochain chef de l'État. Du sport enfin, Mikhail Brezhina a remporté la seule médaille tchèque au championnat d'Europe de patinage artistique de Zagreb en Croatie en terminant 3e dans la catégorie homme samedi. À 22 ans, le Tchèque, auteur du 2e meilleur programme libre selon les juges, a ainsi décroché la première médaille de sa carrière dans un grand championnat. On finit avec la météo. Lundi, c'est la fête des Hautiliers selon le calendrier tchèque. Le ciel est sombre et la neige s'abat sur la Moravie et sur une bonne partie est de la Bohême où les éclaircies doivent cependant réchauffer les cœurs. Les températures en effet restent basses et vont de moins 7 à 0 degré pour les maximales. Des températures qui devraient rester sensiblement les mêmes durant toute la semaine. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme tout de suite avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Pierre pour son bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Vous le savez, l'actualité du week-end a d'abord été marquée par l'élection du nouveau président de la République. C'est donc l'ancien premier ministre social-démocrate Miloš Zeman qui succédera à Václav Klaus et remplira les fonctions de chef de l'État pour les 5 prochaines années à compter de début mars. Nous reviendrons bien entendu sur cette élection tout au long de nos faits événements avec nombre de réactions avant de laisser une petite place quand même à la rubrique sportive. Ce sera dans la seconde moitié de l'émission. Très bonne écoute. Ce n'est pas Zorro, mais presque. En tous les cas, c'est bien un renard rusé, en l'occurrence de la politique, qui revient aux affaires. Zeman est de retour, était d'ailleurs le gros titre qui figurait ce lundi en une du quotidien Lidové Noviny. C'est une évidence, bien qu'il soit tenu à une certaine réserve. L'élection de Miloš Zeman, nouveau président de la République pour les 5 prochaines années, a suscité un enthousiasme très relatif dans les médias tchèques. Pas même encore installé dans ses nouveaux appartements au château de Prague, le futur nouveau chef de l'État n'a pas failli à sa réputation de fort en gueule, puisqu'il a déjà fait savoir qu'il souhaitait l'organisation d'élections législatives anticipées pour remplacer l'actuelle coalition gouvernementale. Pour autant, la réputation du personnage ne dépasse-t-elle pas la réalité et les avis mitigés, voire sceptiques sur sa faculté à rassembler les Tchèques, sont-ils tous justifiés ?
Prezidentské kampani proti sobě hrála Sparta a Slavia. Teď nastupuje hra za národní mužstvo České republiky.
Pendant la campagne présidentielle, ce sont le Sparta et le Slavia de Prague qui ont joué l'un contre l'autre, mais maintenant l'heure a sonné du match de l'équipe nationale de République tchèque. C'est une métaphore empruntée au football et une référence au traditionnel derby pragois que Miloš Zeman a choisi pour comparer son affrontement avec son adversaire pour le second tour, Karel Schwarzenberg. Victorieux et même net vainqueur, avec près de 55% des suffrages, Miloš Zeman promet désormais d'être l'entraîneur des 10 millions de Tchèques qui composent l'équipe nationale. Une chose est certaine, l'ancien premier ministre social-démocrate sera bien le président de celui auquel il va succéder au château de Prague, un Václav Klaus dont il a pourtant été le plus féroce adversaire au tournant des années 1990 et 2000. C'est ce qu'a concédé sur un ton ironique le président sortant, Václav Klaus, donc depuis le Chili où il effectue une visite de travail. On écoute.
Mon favori était Miloš Zeman et je ne m'en suis jamais caché. Je suis donc satisfait du résultat, même si ma satisfaction est secondaire. Le plus important est que je peux affirmer que je suis fier du peuple tchèque. Je pense que le peuple tchèque ne s'est pas laissé mener en bateau par l'incroyable campagne médiatique qui a été menée contre Miloš Zeman. Et si je voulais exagérer, je dirais que contrairement à ce qui a été dit et redit ces dernières semaines, la vérité et l'amour ont enfin triomphé du mensonge et de la haine.
Miloš Zeman élu, beaucoup redoutent que celui-ci s'inscrive désormais dans la continuité du style parfois irritant de Václav Klaus. Cet avis n'est cependant partagé que très partiellement par le politologue Lukáš Macek, directeur de la section centre-européenne à Sciences Po Dijon.
Je dirais pas ça, c'est-à-dire c'est quand même deux personnalités très différentes. Il est difficile de comparer aussi deux présidents qui étaient élus de manière très différente. Donc non, je n'irai pas dans cette comparaison-là. C'est clair que ce sont deux personnalités qui ont des points communs, notamment sur le plan de leur d'un certain égocentrisme, d'un certain sentiment de supériorité, d'une façon qui est souvent perçue comme arrogante de traiter leur entourage, de traiter leurs interlocuteurs, de traiter la presse notamment. Donc de ce point de vue-là, oui, il y aura des points communs. Maintenant, sur le fond, il y a toute une série de qui étaient des sujets de prédilection de Václav Klaus, où il provoquait des controverses, où, à mon avis, Miloš Zeman au contraire, calme le jeu et n'aura plus ce genre de messages venus du château de Prague, qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse de la relation à la société civile, qu'il s'agisse des questions climatiques, etc. Mais il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels Zeman va de temps en temps provoquer des controverses. C'est un personnage controversé, ça c'est clair.
Avant l'élection, les voix de nombreuses personnalités, mais aussi de simples citoyens, lassés, voire même dans certains cas écœurés par les mœurs et pratiques en cours depuis trop longtemps, selon eux, dans la vie politique tchèque, s'étaient élevés pour réclamer un changement de discours et d'attitude moins arrogant et plus en phase avec les préoccupations de la majorité de la population tchèque, dont le moral, comme partout ailleurs en Europe, est marqué par la crise. Faire table rase de ce passé récent, ou sinon au moins opérer une rupture dans la manière de faire la politique, revenir à certaines valeurs plus humanistes qui ont marqué le début de l'ère Václav Havel au château de Prague. Voilà donc ce à quoi prétendait une frange importante des partisans de Karel Schwarzenberg, candidat défait de ce second tour. Or, pour beaucoup de ses opposants, Miloš Zeman symbolise précisément un retour en arrière, un retour à une incessante lutte d'influence, aux intrigues de couloir, à une quête du pouvoir à tout prix et à tout ce que cela sous-entend en termes d'intérêt personnel. Mais Miloš Zeman, de retour sur le devant de la scène politique et médiatique, deux domaines dans lesquels il excelle, quoi qu'en pensent ses détracteurs, incarne-t-il encore réellement aujourd'hui, après plusieurs années passées en retrait et en retraite, toutes ces craintes? Celles-ci ont-elles vraiment raison d'être? S'il est encore trop tôt pour répondre à ces questions, Alain Soubigou, historien spécialiste de l'Europe centrale, estime néanmoins que même si avec Miloš Zeman, succédant à Václav Klaus à la tête de l'État, ce sont deux dinosaures de la politique tchèque qui se passent le relais, il convient de rester prudent dans la formulation de jugements trop hâtifs et condamnateurs. Et selon Alain Soubigou, il faut même s'attendre à certains changements positifs et à un style moins conflictuel que celui qui a été celui de Václav Klaus pendant ses deux quinquennats.
Le style de Zeman, je dirais, son sens de la politique, sa prudence, son sens de la ruse, l'amènera sans doute à mesurer un peu ses propos. Je pense pas, regardez son physique, hein, en rondeur, sa voix caverneuse, l'amèneront sans doute à peser de manière beaucoup moins brutale qu'on ne pourrait l'imaginer, hein, quand on voit le physique de quasiment rugbyman dont est doté Miloš Zeman. Je pense que sa longue carrière depuis 1989 et même avant témoigne de son sens du compromis. Alors certains de ses adversaires parlent même de compromission, hein, et il a dans son entourage des gens avec un passé pas toujours très clair. Mais je doute qu'il heurte autant que son prédécesseur immédiat, je pense là plutôt en matière de politique internationale, hein, je doute qu'il aille à contre-courant. Je formulerai même l'hypothèse assez inverse.
Même si les prochaines semaines nous en donneront très probablement un premier aperçu, il faudra attendre le 8 mars prochain et son entrée officielle en fonction pour savoir si Miloš Zeman, comme son prédécesseur Václav Klaus, sera un président plus enclin à diviser les Tchèques ou si, au contraire, et comme il le prétend, il a la volonté et la capacité de les rassembler, ne serait-ce que partiellement. Nous venons de le dire, c'est donc l'information phare du week-end. Miloš Zeman sera le prochain président de la République tchèque après sa victoire samedi face à Karel Schwarzenberg. Mais quel bilan tirer de ce scrutin? Que faut-il attendre du nouveau président qui prendra ses fonctions le 8 mars? Anna Kubišta s'est entretenue samedi après l'annonce des résultats avec Michel Perotino, politologue et chercheur au Centre français de recherche en sciences sociales à Prague.
Première question, je vais vous demander un petit peu votre réaction à chaud sur le résultat de la présidentielle. Et est-ce que vous êtes surpris de l'écart entre les deux résultats?
Oui, effectivement, l'écart est sans doute plus surprenant que le résultat final. Miloš Zeman à 55%, c'est un résultat assez surprenant, oui, effectivement.
À votre avis, qu'est-ce qui a un peu décidé les Tchèques au dernier moment, au moment de se rendre aux urnes?
Alors, premièrement, il y a aussi une autre remarque à faire, c'est que le taux de participation est légèrement plus faible qu'au premier tour. Ce qui a pu décider les électeurs, c'est d'une part, disons, la situation au niveau des médias, avec quand même une approche parfois assez subjective de certains médias, et l'omniprésence d'un candidat par rapport à l'autre, donc l'omniprésence en fait de Karel Schwarzenberg par rapport à Zeman. Ce qui a pu les décider, c'est aussi les débats télévisés, parfois certaines maladresses de certains candidats. Pour l'instant, on n'a pas encore de données précises sur les motivations du vote, mais C'est plutôt dans cet ordre d'idées-là qu'on devrait les chercher, j'imagine.
Vous parliez du taux de participation hein, qui est à peu près à 59%, alors qu'au premier tour, il était à 61%. Quel est un peu l'enseignement de ce taux de participation? Ils sont quand même allés voter en plus grand nombre, je dirais, que pour des élections législatives ou régionales.
Absolument. Le taux de participation reste relativement élevé par rapport aux autres élections. Bon, il faut encore une fois rappeler évidemment que c'est la première élection directe du chef de l'État, donc peut-être ça l'a joué. Par contre, une des incertitudes qu'on pouvait avoir avant le deuxième tour, c'est justement sur la participation. L'idée étant que plus il y aura de participation, plus sans doute Schwarzenberg était avantagé. Donc là, le tassement de la participation a sans doute plutôt avantagé son concurrent.
Vous parliez tout à l'heure des débats télévisés hein, qui ont été assez forts hein, dans les attaques assez personnelles. Est-ce qu'on peut tirer un peu comme conclusion de cette campagne quand même assez négative dans l'entre-deux tours?
Je dirais que la campagne, malheureusement, a rempli les attentes ou les craintes qu'on pouvait avoir dès le début, c'est-à-dire en fait dès le moment où on a su que l'élection allait devenir directe, à savoir que notamment le deuxième tour serait très, très personnel, très dramatique. Et cela, sans doute, des deux côtés. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait été plus négatif que l'autre.
Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine façon, en dehors du fait que, évidemment, comme vous le rappeliez, c'est la toute première élection présidentielle au scrutin direct, que c'est quand même la marque d'un manque de maturité de la scène politique tchèque?
Manque de maturité, je ne sais pas. C'est aussi en partie tout simplement par une médialisation à outrance de certains aspects, l'oubli d'autres aspects. C'est plus ça aussi, à mon avis, qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire, c'est un mélange de différents éléments.
Le passage d'une élection au suffrage indirect au suffrage direct a été quand même controversé. Hein. Est-ce que finalement, vous pensez que c'était une bonne chose? Beaucoup disent justement que ça éloigne un peu les soupçons de corruption qui ont pesé notamment sur la dernière élection présidentielle qui était à l'époque au suffrage indirect.
Alors oui, sans doute on peut dire cela. C'est peut-être un avantage. L'inconvénient, c'est que ce type d'élection, et on l'a très bien vu notamment à l'occasion du deuxième tour, est une élection qui a plutôt vocation à diviser. C'est-à-dire qu'on a plutôt une approche binaire, soit on est pour l'un, soit on est pour l'autre. Disons qu'ils ont fait des choix qui sont incompatibles avec la victoire du contre-candidat, qui est une division en fait de la société qui est, elle, relativement nouvelle. On n'a pas ça, par exemple, à l'occasion des élections parlementaires.
Cette fracture est assez intéressante, hein, parce que d'un côté, on avait l'impression qu'il y avait une République tchèque jeune, dynamique, citadine, qui était pour Karel Schwarzenberg, et d'un autre côté, une République tchèque des terroirs, des campagnes, plus pour Miloš Zeman.
C'est effectivement l'image qu'on a pu avoir du premier tour, mais il faut juste se rappeler que le premier tour, on a un résultat, on a une image qui se décline en termes d'arrivée en première place, donc qui n'a pas gagné. Là, ici, on est déjà avec le deuxième tour, avec une image de la République tchèque un peu plus unifiée, où on voit en fait que Miloš Zeman a remporté manifestement dans la plupart des districts, à l'exception notable de Prague, qui a voté pour Schwarzenberg. Ça renforce en quelque sorte effectivement certains clivages, ou ça a l'air de renforcer certains clivages, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est quelque chose d'assez traditionnel ou d'assez classique, c'est-à-dire que Prague vote et est une autre République tchèque que le reste du pays.
Voilà, c'était donc le politologue français et chercheur au Centre de recherche en sciences sociales à Prague, Michel Pirotino. C'est avec lui que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme consacré comme chaque lundi au sport. 2h03 et 38 secondes. Ce n'est pas le temps qu'il nous a fallu ce lundi matin pour gravir les escaliers des 5 étages menant jusqu'à notre bureau, mais le temps réalisé par Patrick Macao au marathon de Berlin il y a précisément un an de cela. Détenteur de la meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance mythique des 42 km, le coureur kényan était à Prague à l'automne dernier dans le cadre de sa préparation au marathon de Francfort. Patrick Macao participait début septembre au Grand Prix de Prague, une course nocturne de 10 km organisée par la Société du Marathon de la capitale tchèque. La veille de la course, le recordman du monde s'est vu remettre un trophée par l'Association internationale des marathons et des courses sur route des mains de son dirigeant français Bruno Boukobza, directeur du marathon des Alpes-Maritimes, Niskan, spécialiste de marketing et des sports de masse. Bruno Boukobza a répondu aux questions de Radio Prague, notamment sur les raisons du succès des courses organisées à Prague. Il s'agit là d'une rediffusion de l'émission diffusée le 1er octobre dernier.
Sport,
en République tchèque.
Aujourd'hui, dans le cadre donc, de l'AIMS, qui est l'association qui regroupe plus de 350 marathons internationaux, il a été décidé depuis 1984 de remettre un trophée à la meilleure performance mondiale lorsqu'elle a été acquise. Et là-bas, il s'avère qu'en septembre 2011, Patrick Macao a réalisé la meilleure performance mondiale en 2h03:38, ce qui donc fait qu'on ne peut pas donner un record du monde. On attribue une meilleure performance mondiale parce que l'IMS dépend des l'I2AF et n'est pas une fédération mais une association de marathon.
Pourquoi cette remise de prix se fait-elle à Prague?
Se fait à Prague parce que déjà Patrick va courir demain, parce que Prague est vraiment depuis de nombreuses années pour nous un centre fort en Europe, avec tout ce qui est mis en place par l'équipe de PIM et avec Carlo, on a notamment au mois de mars le semi-marathon, au mois de mai le marathon qui chaque année est en augmentation, on n'est pas loin des 10 000 concurrents cette année, et puis donc le fameux Grand Prix demain samedi, course de nuit, mais on pense que vraiment il y a un très très gros travail fait ici autour du running, mais surtout en mois de mai dernier. PIM a organisé, la ville de Prague a organisé donc le congrès, qui est un congrès de l'IMS qui a lieu tous les deux ans, où là donc l'ensemble des marathons sont invités à venir discuter, à venir échanger. Il y a beaucoup de présentations. Donc ça veut dire qu'aussi tout ce produit est en train de se professionnaliser et qu'on parle maintenant à la fois de sport mais surtout de tourisme. L'intérêt aujourd'hui, moi je vois, étant français, de nombreux coureurs ont fait Prague. Pourquoi français? Pas parce que Prague c'est une ville touristique. 1h30 de chez nous, ça nous donne envie de venir courir dans des conditions et une qualité de course qui fait aujourd'hui de Prague une des meilleures courses au monde. Pas forcément par son nombre de coureurs, parce que on est un petit peu limité par la place, mais qu'aujourd'hui de nombreux coureurs français, et d'ailleurs cette année les premiers représentants étrangers étaient les Français lors du marathon, donc c'est tout à fait normal avec un congrès excessivement bien organisé, qu'aujourd'hui les IMS remettent à Prague le trophée de la meilleure performance mondiale.
Que vous inspire cette meilleure performance mondiale? Alors je ne sais pas si vous êtes personnellement coureur, mais néanmoins amateur de sport et d'athlétisme et de course à pied, que vous inspire cette performance? Et pensez-vous qu'un jour, ou du moins dans les milieux, on va dire, avertis, connaisseurs des courses de fond, est-ce qu'on pense qu'un jour un homme descendra sous cette barre mythique des 2 heures?
Écoutez, moi je pense qu'un jour on descendra sous les 2 heures. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de conditions favorables. Et notamment sur 100 mètres, personne ne pensait qu'un jour on allait descendre là où est Bolt. Mais Bolt est un athlète exceptionnel avec des conditions exceptionnelles. Je pense qu'en course à pied, on aura des athlètes exceptionnels. Patrick Macao est déjà un athlète exceptionnel quand même en finissant les 10 derniers kilomètres tout seul lors de sa meilleure performance en 2h03:38 courant tout seul. Et il y a quand même beaucoup d'aléas. Mais je pense qu'un jour, on peut-être pas la barrière des 2 heures, mais les 2h02, oui. Et quand on voit quand même que sur une course, Patrick a descendu le record de plus de 21 secondes, c'est quand même énorme, en courant seul. Donc maintenant, il faut aussi qu'il y ait un groupe, 4, 5, 6 coureurs, qui puissent faire qu'on soit en 2h02. Un homme seul, je pense, n'y arrivera pas tout de suite.
Alors, on parle des coureurs d'élite. La course à pied vit un gros boom depuis un certain nombre d'années. Il y a des courses maintenant qui sont organisées un peu partout dans le monde. Est-ce que Prague peut constituer un exemple, un modèle pour les autres villes? Alors, on connaît bien sûr les gros marathons comme Londres, Paris, Berlin et ainsi de suite. Mais pour les plus petites villes, est-ce que Prague peut constituer comme un exemple?
Écoutez, globalement, pour regarder un certain nombre de marathons, Prague est aujourd'hui une exception. Parce que c'est vraiment un pays à dimension entre guillemets humaine, faire 10 000 coureurs, être en augmentation perpétuelle sur le semi et le 10 km, c'est que vraiment, on est dans un complètement en plein sport de masse, on est dans une évolution positive, et il est évident qu'aujourd'hui, Prague doit montrer aux autres pays ce qu'on peut faire. Et même nous, en France, on doit s'inspirer de ce qu'il fait ici, parce que ce n'est pas uniquement la ville de Prague, c'est aussi la République tchèque avec ce circuit complètement pensé qui fait d'année en année une progression. Tout le monde progresse, mais là il y a un professionnalisme. Et aujourd'hui, on parle de sport, de tourisme et de professionnalisme dans ce qu'on fait. Parce que mettre 10 000 coureurs sur la route, c'est quand même pas facile. C'est parfois dangereux. Il faut être à moitié fou pour le faire. On n'est pas sur un court de tennis où les spectateurs sont assis. Là, on a des gens qui pratiquent. Et c'est vrai que Prague est aujourd'hui un exemple de technicité et de qualité dont de nombreux organisateurs, même plus prestigieux, regardez.
Alors, un congrès, vous l'avez dit, s'est tenu lors du dernier marathon de Prague. Avez-vous une idée des retombées économiques pour une ville comme Prague, puisque certaines études ont été effectuées? Alors, il y a des gens qui se plaignent, on dit oh, on ferme le centre-ville pendant une journée. Alors, une journée pour le semi-marathon, une autre journée pour le marathon. Mais qu'est-ce que de tels événements apportent concrètement à une ville comme Prague ou d'autres villes?
Moi, je vous dirais franchement, aujourd'hui, pour la masse, Patrick Macao et les athlètes élites sont complètement à part. Pour la masse, on ne parle plus de compétition. On parle avant tout de tourisme et de bien-être. Si aujourd'hui, la course à pied a cet essor international, c'est parce que courir fait du bien. Il y a vraiment beaucoup de valeur autour de la course à pied. Et le principal aujourd'hui, c'est l'apport touristique. Moi, j'organise le marathon de Nice. Je peux vous dire que sur Nice, au mois de novembre, c'est 6 millions d'euros de recettes. Et que les terrasses sont pleines, on est au mois de novembre, que les terrasses sont pleines, les restaurants sont pleins, les hôtels sont pleins, alors parce que nous sommes en saison décalée. Aujourd'hui, il ne faut pas négliger cet apport de touristes, pas parce que ce sont des gens qui vont venir pour courir, et il y a de fortes chances que ces gens reviennent en famille après pour redécouvrir la ville. Donc à un moment, aujourd'hui, c'est important de parler de tourisme. On est complètement sur autre chose là. La performance n'intéresse qu'à la limite que le coureur. Mais on est aujourd'hui, je pense que la course à pied est le sport qui amène le plus de recettes aux villes. Les tournois de tennis, ce sont des gens qui ne vont pas forcément se déplacer. Quand vous avez plus de 50 ou 60 nations, c'est-à-dire 30-40% du globe qui à un moment se retrouve à Prague, parce que Prague arrive à catalyser et par le tourisme et par le sport, ben aujourd'hui, voilà, c'est que la passerelle sport-tourisme se fait naturellement à Prague. Dans des villes, parfois, c'est plus difficile, mais des villes peuvent connaître un essor économique grâce à ces sports de masse et des essors qu'ils n'auraient pas forcément, soit avec la Formule 1, soit avec le tennis, soit avec le football. Là, on est sur des gens qui vont rester 3-4 jours, qui peuvent venir en groupe, en famille et qui vont consommer. Alors, le bémol, c'est qu'évidemment, quand on est coureur, on veut marcher le moins possible pour se préparer et donc, ben, on peut des fois pas tout visiter, mais c'est pour ça que par exemple New York est le plus grand marathon au monde. Paradoxalement, le marathon, vous faites la plus mauvaise de vos performances parce que vous êtes tellement attiré par cette ville que ben, au détriment de votre dernier jour de préparation, ben, vous allez visiter. Et ben, Prague aussi, mais Prague est une ville concentrée où vous avez beaucoup de choses dans un périmètre très réduit et ce qui est vraiment très intéressant et surtout en moyenne d'une heure et demie ou deux heures de vol de toutes les grandes capitales européennes et qui est vraiment la réflexion de Carlo en 84, c'était pour moi un visionnaire, c'est-à-dire que du sport, on allait aller vers le tourisme et aujourd'hui, ce sport-là met le tourisme en avant.
Pour une ville comme Prague qui est limitée par son aspect historique, les rues sont étroites, donc les capacités d'accueil une course comme le marathon sont limitées, elles sont limitées à 9-10 000 personnes. Alors comment pensez-vous qu'un marathon comme Prague peut encore se développer?
Je vous dirais, il y a plusieurs réponses possibles. Je crois qu'à un moment, il y a une qualité et un service. La jauge est 9-10 000 coureurs, ce qui est déjà énorme. Imaginez que pendant 42 km, une ville moyenne se déplace. C'est quand même pas facile. Donc il y a une jauge. Après, donc, il y a la qualité. Après, il s'est aussi de se dire, de toute façon, à un moment, je pense qu'on est arrivé au maximum de participants sur un marathon au niveau mondial. On ne va pas connaître une croissance à deux chiffres éternellement. Après, il y a une jauge. Je pense que la jauge pour Prague est de 10 000. 12 000, ça n'apporterait pas grand-chose. Ça, ce n'est que peut-être que faire des départs par vague, mais techniquement, non. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut courir Prague, comme on sait qu'on fait en moyenne 2 à 3 marathons, c'est comme un grand concert. On s'y prépare, on s'inscrit rapidement et on est sûr de courir. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, il y a 10 000 places. Comme si c'était dans un stade, et ben c'est 10 000 places, il faut s'inscrire. Ben c'est vrai que les gens s'inscrivent de plus en plus tôt, prennent leur hôtel de plus en plus tôt, parce qu'on est vraiment sur cette vague de dynamisme, sport et tourisme. Et puis, il y a 10 000 places, c'est 10 000 places. Vous ne rentrez pas 20 000 personnes dans un stade de 15 000. Là, il faut aussi prendre en compte que les gens veulent courir sans être serrés. Il y a des vrais problèmes de sécurité, comme dans tous les pays. Il faut respecter tout ça. Donc, si on veut faire Prague, il vaut mieux s'inscrire très vite. C'est comme à Paris. À Paris, c'est complet au mois de novembre.
Voilà, c'est la fin de cette émission qui a été préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et merci d'être bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy !